Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Selena d'être aujourd'hui présente pour traiter ce sujet. Donc je rappelle le sujet, l'éducation bienveillante et son application au quotidien, mythe ou réalité. Avant de commencer ce live, Selena, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'animer ce live aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc merci de me donner la parole. Alors, je m'appelle Selena Lunardi, je suis consultante en éducation et thérapeute familiale. Je consulte en présentiel à Aix-en-Provence et également à Fuveaux, qui est à côté d'Aix-en-Provence. D'accord. Je fais également de la consultation en visio pour les personnes plus lointaines. Je suis également formatrice et animatrice d'ateliers. Voilà, j'ai diverses casquettes. Je travaille aussi avec les professionnels de la petite enfance. Que vous dire de plus, j'ai été formée par Isabelle Filioza et son équipe pendant 3 années. Je suis également facilitatrice qualifiée en discipline positive, qui est une autre approche éducative qui est basée sur l'encouragement. Et je suis en train de me spécialiser sur un cursus de 4 années en thérapie familiale systémique. Voilà, donc j'intègre plusieurs choses dans ma pratique.
D'accord, super. Merci Selena pour cette présentation. Alors, on va en venir directement au vif du sujet qui nous amène ici, l'éducation bienveillante. Alors justement, Selena, l'éducation bienveillante, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une grande question. Alors, j'ai choisi de commencer par une définition qui a été proposée dans ce sens par le Conseil de l'Europe. Alors, si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai pris des notes pour rien oublier aujourd'hui. Donc, ce Conseil de l'Europe, en 2006, il a défini l'éducation bienveillante de la façon suivante. Un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui vise à l'élever et à le responsabiliser, qui est non-violent et lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Alors, je voulais m'attarder un peu plus sur la définition de c'est quoi l'intérêt supérieur de l'enfant pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. En fait, ça renvoie au 3e article de la Convention internationale des droits de l'enfant et qui définit ce point-là par assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être psychologique et physique. Et donc, toutes les personnes légalement censées s'occuper de l'enfant sont censées lui prendre toutes les mesures législatives et administratives appropriées et qui vont dans ce sens. Voilà, ça c'est ce que nous donne, c'est ce qu'on peut, on peut se baser là-dessus en tout cas pour étayer le live d'aujourd'hui.
D'accord.
Moi je dirais que donc la parentalité positive ou bienveillante ou démocratique, ça dépend, il y a plusieurs noms associés à ce courant. Pour moi, il nécessite plusieurs choses. Il nécessite tout d'abord un cadre clair pour l'enfant et pour les parents. Je vais insister là-dessus, parce que c'est un peu ce qui fait défaut ou ce qu'on reproche à ce courant d'éducation positive. Le cadre, il y est. Par contre, il a besoin vraiment d'être réfléchi en amont et qu'il soit clair pour tout le monde. Le cadre clair, il va impliquer quoi ? Il va impliquer des zones non négociables, qui, pour la majeure partie du temps, vont se référer à tout ce qui est autour de la sécurité de l'enfant et de sa santé. Et après, charge à chaque famille de pouvoir y ajouter des choses à ce cadre non négociable. Et à côté, un cadre négociable, d'accord ? Des zones négociables qui, là encore, vont être propres à chaque famille et qui vont amener... Donc voilà, si vous voulez, le non négociable, c'est ce qui va concerner... Ben voilà, là où il n'y a pas de souplesse, là où il n'y a pas de flexibilité et qui est vraiment nécessaire et structurant pour l'enfant. Et à côté de ça, les zones où on va mettre plus de souplesse. Mais tout ça, ça a vraiment besoin d'être établi en amont. Parce qu'effectivement, si on n'est pas au clair avec nous-mêmes et dans le couple parental, ben ça ne peut pas être clair pour l'enfant. Et du coup, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, effectivement. D'accord. Ça, c'est le premier point.
D'accord.
Après, pour moi, il y a la corrélation avec les besoins d'attachement, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, tout ce qui concerne la protection, la sécurité relationnelle avec l'enfant et qui va lui permettre derrière de pouvoir aller explorer et aller se nourrir ailleurs. Il y a ça. Et enfin, le besoin des des besoins spécifiques de l'enfant, qui vont être plusieurs, c'est-à-dire tout ce qui va englober les besoins physiques, physiologiques, hein, donc typiquement manger, boire, dormir, mais ouais. pas que. Tout ce qui est besoin relationnel et affectif, donc voilà, est-ce que j'ai passé assez de temps avec mes parents ou les gens qui s'occupent de moi et que j'ai une bonne relation avec eux. Le relationnel, la qualité relationnelle avec le reste du monde, hein, ce que je vis dans ma journée. Le contact avec la nature, parce qu'aujourd'hui on sait qu'un enfant qui n'est pas assez exposé à la nature a plus de stress et ça peut être ça a beaucoup de stress, donc ça va rejaillir dans les relations. Et le besoin de bouger suffisamment. Un enfant de 4 ans, en moyenne, il a besoin d'avoir une dépense énergétique de 4 km par jour en moyenne. Donc voilà, on peut se dire que s'il n'y a pas ça, ça aussi c'est générateur de stress dans la maison et ça va rejaillir à un autre moment. Donc, ouais. C'est une parentalité qui est soutenante, qui prend en compte tous ces paramètres et qui évidemment se met en opposition avec pas mal de croyances qui sont ancrées hein, dans notre société. Voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails là-dedans, mais il y a quand même des croyances autour de l'éducation qui datent d'il y a longtemps et qui sont encore persistantes aujourd'hui. Et comme par exemple, on a besoin un petit peu de dresser l'enfant ou pour qu'il maîtrise ses pulsions ou des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce à l'étude de la psychologie, notamment sur le courant humaniste, la sociologie qui étudie les comportements humains en groupe, eh ben, on sait aujourd'hui qu'un être, un enfant, ce n'est pas un être qui est là pervers et qui est là pour nous dicter sa loi, c'est un être en construction et qui a besoin d'une qualité relationnelle suffisante avec les gens qui s'occupent de lui pour développer correctement son cerveau. Voilà. D'accord. Donc, pour résumer tout ça, moi, je dirais qu'à partir de toutes ces connaissances, voici le postulat de l'éducation bienveillante. Ce serait que l'enfant vient au monde avec tout un tas de compétences innées et des besoins spécifiques. Et c'est grâce aux porteurs de soins qui vont l'aider à développer ce qu'il a besoin pour sa vie aujourd'hui et demain. Et donc, la parentalité positive, elle s'inscrit là-dedans. Et elle va tout d'abord essayer de construire vraiment une qualité de lien avec l'enfant.
D'accord.
Et d'autre part, l'enfant, aussi bien que tous les adultes, hein, tous les êtres humains, on communique verbalement, ça on l'apprend, mais on communique surtout de manière comportementale, analogique. Et donc, l'enfant, encore plus que nous les adultes, communique principalement par ce média. Donc, on a besoin de comprendre pourquoi notre enfant, il agit de cette manière, parce que ce qu'il ne va pas arriver à dire, parce que son cerveau est immature, parce qu'il n'a pas conscience de... son corps le traduit comme un besoin, et il agit en fonction. Donc, on a besoin de comprendre le comportement de notre enfant pour savoir comment y répondre, en fait. Et cette position, du coup, cette nouvelle façon d'aborder l'éducation, elle nous sollicite énormément en tant qu'adultes. Elle sollicite énormément de ressources en nous, parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas été élevés comme ça, surtout en France. Hein, on a une approche avec l'éducation qui est plutôt autoritaire, stricte. Et donc, forcément, ça vient nous challenger, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on n'a pas reçu un certain type d'éducation, c'est forcément plus difficile à faire aujourd'hui, même si on a très envie au fond de nous de le faire comme ça. Notre cerveau, il ne sait pas en fait comment faire. Et ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas une évidence. Hein. Notre cerveau comprend, mais quand on est lié à des émotions compliquées qui nous renvoient à ce qu'on a pu vivre, ce n'est pas si simple et on a besoin de venir réapprendre à être empathique. Parce que on vient au monde naturellement empathique, mais on perd un petit peu cette capacité et on a besoin de réapprendre, qu'elle devienne plus naturelle aussi.
D'accord. Merci Céline d'avoir déjà posé les bases sur cette éducation bienveillante. J'ai vu qu'il y avait un commentaire de Shoshani. Donc Shoshani, n'hésite pas à mettre directement ta question dans la boîte à questions parce que sinon je pense qu'on ne la verra pas et elle est très intéressante pour la seconde partie du live qu'on abordera avec Céline. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont des questions. Céline, du coup, comment alors on peut éduquer avec bienveillance au quotidien? Quels sont tes conseils finalement?
Alors, j'ai identifié, moi, dans ma pratique, trois principales barrières qui empêche les gens finalement d'aller vers cette éducation, on va dire, bienveillante, qui pour moi, en fait, est juste l'éducation qui devrait être normale, hein, compte tenu de tout ce que je viens de dire juste avant. Mais voilà. Il y a trois barrières principales, moi, que je relève aujourd'hui. C'est l'interprétation. Les adultes ont tendance à interpréter avec un mode de pensée adulte ce que font les enfants. Par exemple, si je demande à mon enfant de 3 ans de façon, on va dire, très stressante et insistante, « Viens t'habiller, viens t'habiller, viens t'habiller », par exemple, et que mon enfant part se cacher derrière le canapé, je vais avoir tendance à me dire, par exemple, « Ah ben, il veut vraiment pas s'habiller ». Mais ça, c'est une interprétation. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en termes, au niveau du mécanisme de stress et comment fonctionne le cerveau, mais même nous, hein, les adultes, il ne va pas dire « j'ai pas envie de m'habiller ». Ce n'est pas ça qu'il va dire. Il va en fait, naturellement, il se sent très stressé par la façon qu'on l'aborde et mécanisme de stress fuite et il va aller se cacher derrière le canapé parce qu'en fait, il va s'éloigner de la zone de stress. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas qu'il ne veut pas s'habiller. C'est peut-être seulement la forme qui a besoin d'être revue. Voilà, donc il y a des fois des problèmes d'interprétation qui reviennent souvent. Un enfant ne fonctionne pas, en tout cas ne raisonne pas comme un adulte. Donc on a tendance à penser que notre enfant il raisonne comme nous, ce qui est pas le cas, hein, clairement. Ce ne sont pas des mini-adultes. Après, la deuxième barrière, ça va être l'ignorance, mais pas dans le côté péjoratif, hein, mais juste parce qu'on ne le sait pas. Sur les capacités réelles d'un enfant par rapport à son stade de développement. Donc, on a vraiment, on a besoin d'aller s'informer là-dessus. Et donc, souvent, en cabinet, je me retrouve avec des personnes qui surestiment, en fait, qui ont des attentes beaucoup trop élevées par rapport à la capacité réelle de ce qu'un enfant de cet âge-là peut faire.
Voilà. D'accord.
Il y a ça. Et le dernier gros point qui concerne la majorité d'entre nous, ça va être la mauvaise gestion du stress et des émotions. Donc, par rapport à ces trois barrières-là, voici les conseils que j'en ai 10, en tout cas. Donc, il y en a pas mal. Déjà, d'une part, c'est s'informer sur les besoins essentiels de l'enfant, chose que j'ai déjà dit dans la première question que tu m'as posée. Hein, donc, la prise en compte de ces besoins, en fait, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter moins de crises, ça va en fait, faire baisser le niveau de stress dans la maison parce que, voilà, l'enfant est un être de besoin, il ne va pas savoir exprimer. Donc, si nous, on a besoin d'aller voir un petit peu, cocher les cases, tiens, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Et des fois, un enfant qui n'a pas assez bu dans la journée, ben, son cerveau, il va réagir beaucoup plus fortement à ce stress-là. Et des fois, ça ne tient pas à grand-chose, en fait. Ça tient à un verre d'eau.
Ouais.
Et des fois, nous, on part dans des... on se dit, mais il a un problème, etc. Mais il n'y a pas forcément de problème. Il y a juste un besoin qui n'est pas assoui. Hein, donc voilà, s'informer sur les vrais besoins et regarder ce qui s'est passé dans la journée ou dans la semaine pour notre enfant, ça va nous permettre déjà d'avoir, de faire baisser le niveau de stress et nous d'être un peu plus terre à terre avec ce qui se passe pour lui. Hein. Deuxième chose, c'est s'informer donc sur les stades de développement. Donc on trouve facilement aussi des informations là-dessus, hein, des tableaux. D'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, veulent avoir des tableaux un petit peu sur des généralités par rapport aux âges. Moi, je peux les envoyer, donc n'hésitez pas, hein, si jamais. C'est une ressource que je peux en tout cas facilement vous mettre à disposition. Et ça vient vraiment éclairer les parents. Ça peut être très utile. Le troisième point, ça va être essayer de changer de regard. Et ça va vraiment être lié à la notion d'empathie dont je parlais tout à l'heure. Parce que, admettons, si je vis une situation compliquée à la maison et je pars du postulat intérieur de moi, je me dis, mais là, il le fait exprès. Par exemple, évidemment, vous vous rendez bien compte que je ne vais pas avoir la même réponse, je ne vais pas avoir la même attitude si je me dis ça.
D'ailleurs, on avait un commentaire qui disait que une maman qui avait son fils qui ne voulait pas se brosser les dents et qui avait besoin de lui dire 3 ou 4 fois et que l'enfant lui riait au nez. Est-ce qu'on peut prendre cet exemple?
Tout à fait. Et bien justement, ça va être en lien avec l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Quand un enfant rit, on a souvent tendance à penser, dans notre mode de fonctionnement adulte, qu'il se moque de nous. Or, souvent, le rire est une façon d'extérioriser le stress. Donc, les enfants qui rient quand on leur parle d'une certaine façon, ou qu'on réitère, enfin, qu'on voit clairement sur notre visage qu'on n'est pas content, C'est une façon de libérer le stress. C'est pas qu'ils se moquent de nous, hein. C'est vraiment une décharge physique de
D'accord.
stress. Donc clairement, c'est pas forcément qu'ils se moquent de nous. Et quand bien même, on va dire sur un enfant plus grand, où il y aurait une intentionnalité de se moquer, ça voudrait dire aussi autre chose que s'est installé dans cette famille des modes de communication, on va dire, un peu dysfonctionnels. Et que donc, c'est ma façon à moi de répondre, parce que je sais derrière peut-être que maman ou papa vont m'accorder plus d'attention si je fais ça, que si je fais autrement. Voilà. Et donc, ça pose vraiment aussi, on a besoin de se poser ces questions-là, de comment on communique entre nous et de notre mode de communication, qu'est-ce qu'elle induit dans le comportement aussi, ben voilà, des uns et des autres, dans une famille.
D'accord, merci Selena.
Du coup, qu'est-ce que je disais juste avant?
Du coup, t'en étais au conseil, t'en étais au deuxième, si je ne me trompe pas.
Oui, je disais qu'effectivement, changer de regard. Donc oui, je disais, si je pars du principe où je me dis il le fait exprès, je ne vais pas avoir forcément la même attitude, évidemment, que si je me rends compte que, en fait, mon enfant est en difficulté. Et de voir que, de me dire, tiens, j'ai répété 10 fois et qu'il vienne se brosser les dents et qu'il vient pas, voilà, reprenons cet exemple, ben, qu'est-ce qui fait qu'il vient pas, en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'aucun enfant en fait au monde désire se sentir exclu, se souhaite se faire réprimander, souhaite. Il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il est dans un jeu qui lui plaît énormément, il a du mal du coup à transiter? J'en sais rien, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ou alors, effectivement, il y a beaucoup de stress autour de cette question du brossage de dents et c'est une situation qui se reproduit fréquemment et du coup qui voilà on sait que c'est stressant et du coup l'enfant voilà il va pas venir parce que effectivement il y a cette fuite au stress, il veut échapper à cette situation. Voilà, on a besoin de s'attarder un peu plus sur le pragmatique, qu'est-ce qui se passe là et qui fait qu'il vient pas plutôt que de dire il le fait exprès. Il le fait peut-être pas exprès. Il y a peut-être besoin de l'aider à transiter, que la transition est peut-être difficile à vivre pour lui et d'ailleurs souvent les enfants ont des gros problèmes avec les transitions. C'est vraiment difficile. Surtout en fin de journée, quand on est fatigué, quand toute la journée, on a dû se suradapter pour écouter la maîtresse. Enfin, voilà. Et donc, quand on est à la maison, il y a aussi une zone de décharge, en fait, où on a peut-être moins envie aussi d'encore écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser faire, hein. On revient sur l'aspect santé, sécurité. Le brossage de dents, ça fait partie du cadre non négociable. Donc, ben, voilà. Au lieu, finalement, au lieu de le forcer, hein, de façon traditionnelle, autoritaire, je vais peut-être l'aider. Et c'est celle-là toute la subtilité, en fait, de l'éducation bienveillante. C'est qu'on va chercher le moyen pour l'aider à transiter, de voir qu'il y a une difficulté, en fait, à cet endroit-là. Voilà. Plutôt que de considérer que l'enfant, il le fait exprès ou d'être dans une connotation négative. Voilà. Ensuite, oui. Je marquais une pause, mais effectivement, je n'avais pas fini, j'en suis qu'au deuxième point. On a peut-être besoin aussi, en tant que parent et adulte, de se connecter à son enfant intérieur, c'est-à-dire de regarder, ben, peut-être que moi, j'ai vécu des choses difficiles hein, en tant qu'enfant, hein, comme tout le monde, on a vécu des choses qui n'ont pas toujours été roses, mais peut-être qu'il y en a certaines qui viennent nous parasiter dans notre rôle de parent. Parce qu'elle ravive de façon trop forte des émotions. Et que du coup, quand on est trop dans notre émotion forte, eh ben, en fait, on n'est plus à l'écoute de ce qui se passe pour notre enfant. Et quand je dis écoute, ce n'est pas l'écoute là, hein, auditive, c'est l'écoute de ce qui se passe pour lui, donc de ses besoins, etc. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Et donc, je suis que avec mon émotion à moi et ce qui se passe pour moi, et mon besoin à moi. Voilà. Donc, je peux être à un moment donné prisonnier de ça. Et ça crée un écart, un gap avec mes enfants, puisque bah, de fait, je ne peux pas à ce moment-là. Je ne peux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Ça va me donner des indications précieuses sur, ben, tiens, effectivement, là, je remarque que c'est compliqué là pour moi. Et pourquoi c'est compliqué? Et de cheminer avec ça. Et du coup, de compartitionner à l'intérieur de ma tête et de mon corps, de dire, bon, ben, ça, je m'en occuperai après. Et j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose pour moi. Et après, je me remets en lien avec mon enfant si c'est possible.
D'accord.
C'est vraiment une part importante. On se sert en parentalité positive, bienveillante, ce qu'on veut, de ses propres émotions. On s'en sert comme un guide et on s'en sert dans notre parentalité. c'est pas, on ne les met pas de côté. C'est on s'en sert pour savoir ce qui se passe pour moi et du coup, dans la relation aussi, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Ça demande de, peut-être aussi de faire un travail du coup sur ses émotions. Hein. C'est une barrière dont j'ai abordé, je ne me suis pas attardée tout à l'heure là-dessus, mais donc si mon émotion est trop forte ou mon stress est trop fort, hein, parce que quand on a reçu une éducation autoritaire, il peut y avoir beaucoup de stress. Hein, et du coup, moi, je vis mal de stress. Mais du coup, si je me retrouve dans une situation où mon enfant, ben, il ne coopère pas, ça peut générer beaucoup de stress. Et du coup, qu'est-ce que je fais de ce stress ? Voilà. Donc, il peut y avoir vraiment des difficultés hein, par rapport à ça. D'accord. Et ça, ça va. Voilà. Ensuite, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié. Oui, il y a quelque chose de très important, c'est de faire les points, regarder vraiment en face nos points forts et nos points faibles en tant que parents. Parce qu'on a tous des points forts et on a tous des points faibles. Hein. Et si par exemple, encore une fois, j'ai eu une éducation autoritaire stricte, eh ben ça me donne aussi des points forts. C'est-à-dire que je vais peut-être être quelqu'un qui va savoir très bien poser un cadre. Et le cadre, il en a besoin, mon enfant. Donc, chouette, c'est super. Donc, le noter. À l'inverse, si j'ai reçu une éducation plutôt très libre, où il n'y a pas de cadre, où, eh ben, j'ai développé, je suis peut-être naturellement plus à l'écoute de mon enfant, plus empathique, mais à contrario, quand il y a besoin de poser un cadre un peu ferme à certains moments, quand c'est nécessaire, ben, je peux avoir énormément de difficultés. Jusqu'à appréhender, pour faire un lien avec le stress, jusqu'à appréhender peut-être une mauvaise réaction de mon enfant, qui va être stressante pour moi, et du coup, pour éviter ça, eh ben, je vais pas poser le cadre parce que je vais redouter ce moment-là. Donc, ça va amener d'autres dérives. Mais les deux sont essentiels. Poser un cadre ferme et clair quand c'est nécessaire. Amener de la souplesse à d'autres moments. Et là, du coup, je fais le lien avec le point d'après. C'est de savoir prioriser mon quotidien. Quel est le plus important pour moi? Parce que dans l'éducation, on ne peut pas... À un moment donné, on ne peut pas mettre tout, tout n'est pas important et urgent. Donc, ça demande à prioriser, à se poser ces questions. Quels sont les points vraiment importants pour moi? Quelles sont mes valeurs? Et ça, je vais vraiment y apporter plus de fermeté, on va dire ça comme ça, un point dominant là-dessus. Mais je ne peux pas faire ça avec tout. C'est un peu trop. Voilà. Donc, ça demande de prioriser. Quels sont les points vraiment fondamentaux et importants pour moi dans ma parentalité? Et quels sont ceux avec lesquels j'ai moins d'attentes et du coup où je peux mettre plus de souplesse. C'est l'équilibre entre les deux qui va faire que ça va être sain en fait pour tout le monde. Et je ne vais pas me sentir lésée hein, en tant que parent dans ma relation. Donc on a besoin d'être ferme à certains moments et d'être souple à d'autres pour que chacun s'y retrouve. Ça demande d'analyser ses ressources externes et interne, c'est-à-dire ben, est-ce que j'ai de la famille, est-ce que j'ai des amis, sur quoi je peux compter dans ma vie de parent pour passer le relais quand c'est nécessaire, parce que encore une fois, ce type d'éducation, elle demande énormément de ressources internes, et donc ça, à un moment donné, si on a besoin de souffler, ben, c'est important de le faire, c'est même un pilier, c'est quelque chose que je répète tout le temps à mes clients ou en formation, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son couple, prendre soin de sa famille. On ne peut pas donner indéfiniment à ses enfants, donner indéfiniment dans son foyer et moi, rien me donner. Ben, ça ne marche pas. Et à un moment donné, je vais être submergée, je vais être trop dans le stress et je vais avoir l'impression d'exploser et ça va ternir ma relation. Parce que même si très fort, je veux donner ce type d'éducation, si concrètement, moi, je ne me ressource jamais, et je ne dis pas que c'est facile, hein, surtout dans nos sociétés, hein, mais c'est primordial. J'ai besoin d'investir cette valeur. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire à nos enfants, ce qui va primer, c'est ce qu'on fait. Si j'ai toujours vu ma mère faire tout pour moi, ce qu'on peut appeler dans l'excès une mère sacrifice, c'est pas un cadeau hein, qu'on fait à nos enfants. Pourquoi? Parce que mon enfant, il aura beaucoup de mal une fois adulte à se donner du temps pour soi. D'accord. Et on a besoin du coup de donner cet exemple-là pour que l'enfant, quand il grandisse, il se rappelle effectivement que oui, c'est vrai, ma mère, elle, voilà, ma mère, mon père, hein, ceux qui s'occupaient de moi, et ben, il prenait ce temps-là et c'est donc intégré comme quelque chose de normal qui fait partie en fait de l'équilibre d'un être humain, enfin d'une famille. Donc voilà, ça passe aussi par ce qu'on fait et ça c'est vraiment très important, je le souligne. Hein. Et enfin, le dernier point que j'ai envie de vous transmettre là sur les conseils, c'est protégez-vous des remarques négatives, des personnes qui vont vous juger. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir ce type d'éducation parce que les parents sont trop peu soutenus. Il y a encore donc ces idées reçues très ancrées dans notre société. Et c'est très confrontant, en fait, parce que si je me mets à la place de grands-parents, par exemple, qui ont donné un certain type d'éducation et que je vois que mes enfants, donc les parents d'aujourd'hui, font différemment, ben, implicitement, je peux me sentir remis en cause, même s'ils n'en ont pas conscience. Et donc, eux, en fait, leur mécanisme va être de juger, de critiquer. Et donc, je dis ça aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, ce n'est pas vous qui jugez. En faisant ça, c'est un mécanisme de protection pour ne pas sentir que peut-être eux, ils ont fait mal quelque chose. Et ça peut venir de la part des parents, ça peut venir de la part de la famille rapprochée, ça peut venir d'ailleurs. Mais souvent, voilà, il y a une pression énorme et on n'est pas forcément soutenu parce que ça remet en cause aussi toute une façon qui a été faite pour ne pas sentir la culpabilité. Donc, voilà. Éloignez-vous, essayez en tout cas d'avoir ça en tête si un jour ça vous arrive encore, parce que ça arrivera encore, de vous en protéger, de vous dire c'est celui qui juge en fait, qui est en train de... Il y a quelque chose qui se passe pour lui, et c'est pas forcément vous qui faites quelque chose de mal. Mais ça le confronte, en tout cas, sur des idées, sur sa conception.
D'accord. Merci, Céline, déjà pour tous ces conseils que tu as pu nous donner sur l'éducation bienveillante. Alors, il y a aussi une question qui reste en suspens, c'est quels sont les mythes, finalement, que l'on entend sur l'éducation bienveillante ?
Il y en a beaucoup. La première qui me vient en tête, c'est la parentalité positive. En fait, c'est du laxisme. Alors, celle-là, oui, parce qu'il y a cet amalgame qui est fait que la parentalité positive, c'est tout laisser faire à l'enfant. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. Donc, un enfant roi, oui, ça existe, mais les enfants rois, tels qu'on les voit, ben, c'est ceux qui ont manqué de cadre, en fait. Un enfant qui a zéro cadre, il n'est pas capable de gérer ses émotions, il n'est pas capable de gérer sa frustration, il n'est pas capable de vivre avec les autres puisqu'il est égocentré. Il est resté à l'étape de j'ai 2 ans et il n'y a que moi qui existe. Hein. Donc ça, oui, ça existe, mais ce n'est pas l'éducation positive. Ça s'appelle vraiment le laxisme. Et la parentalité positive, je le répète, a un cadre.
Ouais. Et c'est bien parce que c'est vrai que c'est une des premières choses dont tu as parlé. Finalement, les limites, l'éducation bienveillante, il faut mettre des limites. Hein. Donc, c'est vrai que oui.
Ça parle des limites, des limites, mais de comment on va aussi l'investir dans le quotidien et comment ça va être clair. Parce que souvent, quand on arrive à la punition, par exemple, on se dit, ben, là, ça atteint les limites. Et du coup, je vais être dans la répression un petit peu. Alors qu'en fait, le but, c'est d'être plus dans l'anticipation. Parce que je sais que mon enfant, peut-être, il va avoir besoin de ça. Mais moi, maman, papa, personne qui m'occupe d'enfants, j'ai aussi besoin de ça. Et donc, le cadre, il va répondre aux besoins de chaque membre de la famille. Voilà, c'est ça, en fait.
D'accord.
Alors, peut-être que pas assez lisible en termes pragmatique, mais on n'a pas le temps d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Mais l'esprit, il est là de la parentalité positive. C'est que tout le monde, en fait, s'y retrouve. La deuxième, c'est vrai que la parentalité positive ne marche pas. Ça ne marche pas, la parentalité positive. Mais ça devrait... Mais alors moi, j'ai envie de répondre, mais ça devrait marcher en quoi ? Parce que ce n'est pas une baguette magique. Hein. Qu'est-ce qu'on veut ? Souvent, les gens, ils pensent que... parce qu'on va avoir telle ou telle attitude, et ben l'enfant, du coup, il va peut-être mieux nous écouter. Mais ce n'est pas ça la vocation de la parentalité positive. La vocation de la parentalité positive, c'est une parentalité qui équipe l'enfant à long terme à développer des compétences. Donc, c'est vraiment un travail de fond. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose d'instantané, comme la punition, des choses comme ça, qui, elles, sont efficaces. Je ne vous dis pas le contraire. Au contraire, c'est très efficace, la punition, mais c'est efficace à court terme. Parce qu'on se rend compte que derrière, l'enfant recommence au bout d'un moment. Et donc, on est obligé d'avoir une punition encore plus forte, etc. Donc, c'est un cercle vicieux qui n'apprend rien. Par contre, on apprend la peur. Et donc, l'enfant fonctionne parce que l'enfant a peur. Et donc, il ne va pas faire des choses, non pas parce qu'il a compris l'intérêt, mais parce qu'il a peur. Donc, les leviers ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà. Et donc, ça ne marche pas. Ben oui, effectivement, ce n'est pas parce qu'on va être dans une écoute de l'enfant et avec un autre, un cadre un peu différent qui va mieux écouter, au contraire. Il va, c'est tout l'inverse en fait, il va encore plus exprimer en fait ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et souvent, ça aussi c'est un autre amalgame. Mon enfant, si je suis comme ça avec lui, eh ben, il sera toujours heureux. Ben non, il ne va pas toujours être heureux. Il va d'ailleurs beaucoup plus s'exprimer quand ça ne va pas ou quand il est très content. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une qualité de confiance relationnelle beaucoup plus importante et que donc il va venir se déposer et exprimer les choses. Là où peut-être d'autres enfants ne le feront pas. Et ça, on n'est pas équipé aujourd'hui à savoir y répondre si on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe pour nous. Parce que ça peut être très confrontant quand on fait beaucoup d'efforts dans notre parentalité, on se dit mais quand même, avec tout ce que je fais pour lui, et là on commence à nourrir, vous voyez, des idées qui vont amener de la rancune envers notre enfant. Alors qu'en fait, voilà, et c'est ça en fait qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on fait des choses pour notre enfant que d'un coup, ça voudrait dire qu'il devrait arrêter de vivre ce que lui vit. Mais c'est plutôt de me concentrer sur moi et dire mais pourquoi finalement ça me dérange autant ? Ou qu'est-ce que j'aimerais que ça change ? Et de partir dans un questionnement intérieur en me disant bon ok, ben alors je vais peut-être agir, ou je vais faire les choses différemment, ou je vais aussi m'autoriser à exprimer ce que je ressens auprès de mon enfant. Un petit exemple, ça serait au lieu de « tu es insupportable », qui est clairement un jugement et qui en plus inclut la personne, c'est-à-dire, et non pas les faits, c'est de faire déjà cette distinction que l'émotion, c'est moi qui la ressens. C'est, là, je me sens très en colère parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Et du coup, je prends la responsabilité de mon émotion, parce que j'ai totalement le droit de me sentir en colère, déjà, de la verbaliser pour aider l'enfant à comprendre ce qui se passe pour moi. Voilà. Et après, lui donner la série des faits. Hein, et que, oui, je t'aime, mais ce comportement-là, il n'est pas acceptable. Voyez ? Et voyez, elle est toute là, la construction de la parentalité. C'est que je fais une distinction entre les faits et l'être. Et je suis dans une approche où je vais donner ça une lisibilité pour ensuite qu'on trouve ensemble des solutions. Évidemment, en fonction de l'âge de l'enfant, hein, forcément, trouver des solutions en construction avec l'enfant à 2 ans, ça va être plus difficile qu'avec un enfant de 8 ans.
Bien sûr.
Évidemment, donc on s'adapte aussi à ça. Autre mythe, bon ça j'en ai parlé, oui, la parentalité positive, ça prend trop de temps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend. Alors moi, j'ai envie d'illustrer ça par un exemple très personnel. Donc, moi, je suis maman de 3 enfants, dont 2 qui sont tout petits. Et un jour, comme tout le monde, eh ben, j'avais besoin de partir parce que j'étais en retard et je devais aller au travail. Et mes enfants, clairement, s'agrippaient à moi sur mes jambes et ne voulaient absolument pas me laisser partir. Alors que moi, j'étais dans le stress, je devais vraiment partir et j'avais envie de partir. Et j'avais besoin de partir. Donc ça, c'était mon besoin. Et eux, ça faisait une semaine, ils ne me voyaient pas parce que j'avais beaucoup d'interventions cette semaine-là. Donc c'était vraiment difficile pour eux de me laisser partir. La première réaction que j'ai eue, comme tout un chacun, ça a été « Non, maintenant, tu me laisses partir. Là, j'ai vraiment besoin d'y aller. » Donc j'étais auto-centrée sur moi. Et à un moment donné, forcément, bah, eux, ça grippait encore plus. Hein, ça ne fonctionnait pas. Et moi, je continuais à m'énerver. Donc à un moment donné, c'est monté à mon cerveau quand même au bout d'un moment. J'ai soufflé, j'ai respiré, je me suis mis à leur hauteur, je me suis baissée à genoux, et je les ai pris dans mes bras et je leur ai dit « Tu aimerais vraiment que maman elle reste là avec toi, c'est vraiment difficile là pour toi. » Et je me suis connectée juste à ce qui se passait pour eux en fait à ce moment-là. Et là ils m'ont dit « Et voilà, ça a duré 30 secondes et après ils m'ont dit « Bon ben c'est moi qui ferme la porte, je n'ai rien dit, hein. J'ai juste laissé poser quelques secondes. » Et de eux-mêmes, en fait, ils se sont décrochés. Ils m'ont dit, bah, c'est moi qui ferme la porte. Et ils m'ont laissé partir. Donc, voilà, c'était toute la puissance. Et j'avais envie de dire ça. C'est que les 3 minutes que j'ai pris à faire ça, moi, derrière, ça m'a permis de partir de manière plus apaisée. Ça a permis à mes enfants de reprendre du pouvoir sur la situation. Et je suis partie. Alors que si j'aurais continué à être juste là-dedans, eh bien, en fait, très certainement, j'aurais dû demander à mon mari de me les décrocher parce que j'y serais pas arrivée. Ça aurait fini dans les cris. Et moi, j'aurais pas été bien non plus en partant comme ça. Hein, et eux non plus. Et ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps que les 3 minutes que j'ai pris à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà ma réponse à ça. Mais encore une fois, ça s'apprend. Hein. C'est pas inné. Et moi, ma première réaction, ça n'a pas été de faire ça tout de suite. Il a fallu quand même que je me recentre 2 minutes. Donc, c'est pas forcément évident. Hein.
D'accord. Merci Téléna, du coup, d'avoir parlé de ces mythes. Je suis désolée si tu en avais encore. Je pense
Ah,
qu'on
j'en
va
ai encore
parler
plein, mais c'est
parce
pas grave.
que je vois l'heure passer et malheureusement, ça va pas être possible de tout voir. Et je pense que la dernière question est vraiment importante et j'aimerais vraiment aussi que les utilisateurs puissent poser leurs questions
Bien
puisque
sûr.
c'est aussi un moment très intéressant. Donc on va finir par cette dernière question finalement. Séléna, pourquoi l'éducation bienveillante, elle peut aussi être un enfer pour les parents?
Alors, tout simplement, déjà, la première chose, c'est parce qu'il y a pas eu de, on n'a pas eu ce modèle, encore une fois. Et quand on n'a pas eu de modèle, on n'a pas de mode d'emploi. Et notre cerveau, il fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire que les sillons qui se créent dans mon cerveau, c'est ceux qui ont été le plus sollicités. Et ceci, j'ai été habituée à une non-empathie, à une non-prise en compte de mes besoins. J'ai peut-être du mal moi-même à prendre en compte mes besoins. Je suis dans une demande, voilà, un peu stricte. Et si je veux changer ça, dans le moment à chaud, c'est-à-dire quand je suis à froid et que tout va bien et que je ne suis pas énervée, que je ne suis pas dans le stress, je peux réfléchir. Mais aujourd'hui, on le sait très bien, ça au niveau du mécanisme du cerveau, c'est que quand je ressens une émotion forte ou beaucoup de stress, eh ben, les premières choses qui reviennent en réflexe, c'est celles que l'on connaît, c'est celles que le cerveau a le plus expérimentées. Et donc, quand je ne sais pas comment faire, eh ben, c'est très difficile en fait. Et donc, l'enfer de ça, pourquoi ça peut être compliqué? C'est parce que, encore une fois, il y a beaucoup de pression autour des parents aussi. Voilà, donc on n'est pas forcément accepté dans ce type-là, on n'est pas soutenu. Ça met du stress, hein, je reviens sur le stress. Et on peut aller du coup aller dans des extrêmes. Donc si je ne veux pas reproduire mon schéma parental, je vais peut-être tout concéder à mon enfant. Parce que je ne veux surtout pas refaire comme mes parents. Donc là, je me construis dans l'opposition. Mais voilà, si je ne mets pas de cadre, bah, ça ne va pas marcher. Et du coup, c'est un peu le reproche qu'on fait à la parentalité positive. C'est que, c'est d'où vient cette croyance, du coup, c'est qu'on laisse tout faire. Mais souvent, on se retrouve avec des parents qui veulent faire différemment. Et donc, ils cherchent le juste cadre et qui n'arrivent pas forcément à le trouver. Hein. Et donc, ben, ça donne des excès. C'est des parents qui s'épuisent parce qu'ils vont aller vraiment dans le besoin de l'enfant, d'une façon excessive, sans prendre en compte les leurs. Et là, après, ce qui se passe, c'est un burn-out. Voilà. C'est ce qu'on appelle un burn-out parental, c'est-à-dire que je veux tout faire pour mon enfant. Et à un moment donné, moi, je suis vide, j'ai plus rien, j'ai plus de ressources. Et l'enfant, lui, il ne se cadre pas non plus, bah, parce qu'il n'a pas forcément le bon cadre. Et le parent est en sursollicitation et il n'y arrive plus au bout d'un moment. Et il s'épuise. Donc voilà, c'est ça, en fait, vraiment l'excès. Et c'est un peu ce dont se servent les détracteurs de cette éducation, de ce type d'éducation, pour dire. Ben voilà, pour dire que c'est n'importe quoi et que l'enfant ne se structure pas et que les parents s'épuisent, etc. Et moi, la première, hein, voilà, quand j'ai mis en place ça chez moi, ben moi aussi, je me suis épuisée. Donc, je peux vraiment, voilà, je n'ai pas fait un burn-out parental, mais c'est difficile en fait de trouver le bon cadre. On a besoin d'expérimenter et d'être ouvert à l'erreur. Ben oui, j'ai le droit de me tromper et de rectifier. Voilà, et j'essaye d'être bienveillant déjà avec moi-même, parce qu'il n'y a pas de parent parfait. Bon, ça, c'est notre croyance. La parentalité positive, c'est pour les parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits, mais par contre, on a tous à dealer avec là où on en est. Donc, nos points forts, nos points faibles, et pas aller dans l'excès. Voilà, je dirais que c'est ça vraiment l'enfer. Ça peut devenir un enfer quand on veut faire toujours trop bien, qu'on ne s'accorde pas le droit à l'erreur, qu'on a suivi tout ce qu'on a lu dans les livres, mais qu'on n'y arrive pas. Ou alors, au contraire, ça peut être un enfer parce que justement, on essaye d'appliquer ce qu'on a lu, mais dans les faits, on n'y arrive pas. Pour X ou Y raison, on n'y arrive pas. Et donc là, peut-être qu'on a besoin de se faire accompagner et de faire une thérapie qui nous empêche, voilà, d'être vraiment dans le lien avec notre enfant parce qu'on a trop de choses à régler avec soi-même. Donc,
D'accord.
ça peut être ça.
Merci. Merci Céline d'être venue nous parler de l'éducation bienveillante et de son application. J'imagine qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire et
Ah oui,
que
c'est un thème très.
très riche finalement. Et oui, on pourrait en parler,
On
c'est sûr,
pourrait en
des heures.
parler 3 jours, hein, même
Ouais.
plus.
Alors, Selena, on va regarder les questions utilisateurs. On n'aura pas le temps d'en faire beaucoup au vu de l'heure, mais on va en faire une ou deux parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller parler directement à Selena sur son Instagram si vous avez encore donc des questions après le live. Alors, on va regarder Shoshani qui nous dit « Quand les couples se défont, tous les repères de l'enfant sautent. Comment garder le cap finalement ben, quand il y a une séparation, un divorce ?»
Bah déjà, ça va être d'essayer d'entretenir une communication constructive avec le partenaire, hein, enfin avec la personne avec qui on fait faire de la coparentalité, ça semble être la base. C'est pas forcément toujours évident, surtout ça dépend des types de séparation, mais ça c'est vraiment ce qui aide le plus l'enfant, de voir que malgré qu'il y ait une séparation du couple conjugal, ils maintiennent, en tout cas au niveau de la parentalité, une cohésion. Ça c'est sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, malheureusement, la vie fait que c'est pas toujours possible, et là, encore une fois, quand ce n'est pas possible, il faut encore une fois que le cadre soit clair dans chaque maison. Pour l'enfant, pour qu'il se retrouve. L'important, ce n'est pas problématique si les cadres sont différents. L'important, c'est qu'il soit clair, que ce soit lisible pour l'enfant et qu'on y amène du sens. Parce que souvent, quand l'enfant il prend pas le cadre, c'est qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, ou en tout cas qui ne font pas sens pour lui. Donc, on a besoin d'être clair.
D'accord. Donc, toujours expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça.
Alors, pas dans l'excès, hein. Des fois, il n'y a pas besoin d'être vraiment dans les grosses explications. En tout cas, s'il y a quelque chose à un endroit qui vous sentez que ça bute, ça ne passe pas, on a peut-être besoin effectivement d'en parler et d'expliquer que chez papa, ça ne marche pas de la même façon et que c'est comme ça et que chez maman, c'est différent parce qu'elle est différente et qu'on n'est pas en train de se critiquer, hein. Voilà, on ne critique pas papa ou maman, hein, ce que fait papa ou maman, mais que chez chacun, c'est différent parce qu'on a des visions différentes, ou en tout cas, voilà, le mieux, c'est que ça soit le plus uniforme possible. Mais en tout cas, si ça ne l'est pas, il faut qu'il y ait du sens, il faut y mettre du sens derrière.
D'accord. Merci, Selena.
Et rendre les choses pragmatiques. Les enfants, ils aiment le concret.
D'accord. On a eu plusieurs questions qui demandent les tableaux. Du coup, les tableaux, les personnes peuvent te contacter directement par Instagram pour avoir les tableaux, c'est ça?
Oui. M'envoyez votre adresse mail, je vous les envoie.
D'accord. On a une autre question qui est revenue plusieurs fois. Les parents qui sont seuls pour élever l'enfant, donc seuls avec un enfant depuis 10 ans, comment justement on prend du temps pour soi en tant que parent quand on élève seul un enfant?
C'est une vraie question très, très importante à se poser. C'est effectivement, je sais que c'est très, très difficile et que des fois même, c'est très difficile en fonction des situations, mais c'est de regarder déjà dans un premier temps quelles sont les ressources, encore une fois, autour de nous, parce que des fois, on n'en a pas du tout et là, c'est encore plus complexe, mais des fois, on en a et on n'ose pas forcément les solliciter. Et c'est se donner aussi l'autorisation de demander, parce que quand on est parent solo, c'est très difficile des fois de demander de l'aide. On ne se l'autorise pas parce qu'on se sent tellement responsable et on ressent aussi une telle culpabilité de demander aux autres de l'aide. On voudrait être Superman, Superwoman et tout savoir gérer. Donc, j'ai envie de dire ça. C'est se donner l'autorisation à un moment donné de demander quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, de replacer qu'est-ce qui pourrait m'aider à dégager du temps. Pour ça déjà, c'est tout poser sur une feuille. On a tendance à tout garder des fois dans la tête, et le fait de pouvoir le poser à un moment donné, de faire des dessins, le poser par écrit, j'ai envie peut-être de donner un objectif réalisable et concret à partir, je sais pas, de tel mois, dans tant de temps, j'aimerais pouvoir me dégager ce créneau là pour moi, et de voir comment ça pourrait être possible.
D'accord.
J'ai pas de réponse miracle, mais en tout cas ça se construit.
D'accord. Merci. Et merci, Selena. On va faire une dernière question. C'est Assa l'oreille qui nous dit « Bonjour, quand je dispute mon fils parce qu'il a fait une bêtise, j'essaye de communiquer avec lui, il sourit et des fois me tourne le dos. »
Alors, je n'ai pas l'âge de l'enfant. Donc, c'est difficile de répondre parce que je n'ai pas forcément l'âge de l'enfant. En tout cas, s'il sourit et qu'il se retourne, j'imagine que c'est quelque chose qui se répète depuis un moment, donc il y a quelque chose qui se passe, qui s'est instauré dans ce mode de communication. Je ne sais pas quelle est la bêtise, donc voilà, je ne sais, ça va être compliqué aussi, mais en gros, l'idée, c'est de ne pas essayer de communiquer à chaud, parce que quand je suis à chaud, que ce soit...
Il a 10 ans, l'enfant. Il a 10 ans, l'enfant.
Il a 10 ans, ok. L'enfant, il a 10 ans. Donc, la première chose, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de dire... je suis en colère ou je ne suis pas contente parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Vérifiez-moi à quel niveau je suis d'énervement, parce que si je suis vraiment juste dans la réaction, dans l'attaque, on va dire, de réprimande, je ne vais pas être entendue par mon enfant, parce que mon enfant, il va juste réagir à l'attaque. Et donc, pour se protéger de l'attaque, eh ben, il va se retourner et il va refuser le dialogue. Donc, si moi, je sens que je suis excédée, la première chose à faire pour que derrière, il puisse entendre et comprendre ce qui se passe, c'est moi faire baisser mon niveau de stress. Donc, je verbalise, je dis que je suis excédée, que je suis énervée, je dis pourquoi, et j'arrête là. Ça ne sert à rien, en fait, de parler dans ce moment-là. Il y a besoin de faire redescendre le niveau de stress et d'énervement à l'intérieur de moi et de dire, maintenant, je vais dans ma chambre, je vais dans le jardin, je ne sais pas, et de prendre soin de moi et de dire, qu'est-ce qui va faire là, qu'est-ce qui va me faire du bien là tout de suite pour décharger mon énervement, non pas dans la relation avec mon enfant, mais à part, pour faire baisser ça, et après revenir et pouvoir avoir un dialogue constructif. Voilà, parce que souvent l'erreur qu'on fait, c'est je suis énervée, je suis excédée, c'est la fin de journée, j'en ai marre, je suis fatiguée, hop, j'attaque. Ce qu'on fait avec notre conjoint aussi. Hein. Et donc, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et bien après, c'est l'escalade, en fait, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui crie plus fort que l'autre ou qui gagne. Et voilà. Et donc, après, on est dans des mécanismes de victime, sauveur, persécuteur, hein, triangle dramatique. Je vous laisserai aller voir ce que c'est, hein, pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Donc, à un moment donné, le jeu s'arrête. Parce qu'il y en a un qui prend le dessus. Et avec nos enfants, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire. Donc, première étape, c'est je dis, je verbalise mon émotion. Deux, si je suis à chaud, je ne vais pas aller l'attaquer tout de suite. Par contre, voilà, je lui dis clairement ce que je ressens, hein, qu'il le sache. Trois, je dis où je vais. Je vais taper, je ne sais pas, un punching. Si ça me défoule d'aller taper sur un punching ball, je vais taper mon punching ball. Hein. J'appelle une copine, j'appelle mon mari, je ne sais pas. Je fais quelque chose pour me décharger moi, en fait. Et ensuite, je reviens et je vois si mon enfant est prêt à entendre et à communiquer avec moi. À partir du moment où moi, je ne suis pas en train de l'attaquer.
Ouais. D'accord.
C'est vrai, dans une démarche constructive.
D'accord, super. Merci, merci Séléna pour ton conseil. Merci Séléna pour ce live sur l'éducation bienveillante et son application au quotidien. J'espère que ça aura permis à pas mal de personnes d'avoir des petites clés et finalement aussi d'en finir un peu avec ces mythes qu'on a sur l'éducation bienveillante. Je ne sais pas Séléna si tu avais un message à faire passer justement sur l'éducation bienveillante ou tout simplement pour parler de ton cabinet, n'hésite pas.
Non, ce que j'ai envie de vous dire pour clôturer, bon, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais voilà, c'est un sujet très riche, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Sortons aussi de cette vision que si je fais telle chose, ça va marcher, si je ne fais pas ça, je suis un mauvais parent. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a autant de familles différentes que d'individus sur cette planète, et que le tout, c'est d'arriver à trouver un équilibre qui réponde un peu aux besoins de chacun. Et que c'est vraiment ça la posture de la part, enfin, l'éducation bienveillante. Finalement, c'est un équilibre commun et ce n'est pas facile à trouver. N'hésitez pas à vous faire accompagner quand vous sentez que ça bloque, parce que des fois, il ne suffit pas beaucoup de séances pour débloquer les choses, et n'attendons pas justement qu'on implémente entre nous des systèmes de communication dysfonctionnels pour réagir, parce que plus on attend et plus c'est difficile ensuite de revenir derrière, même si c'est pas impossible, mais ça va demander plus de travail. Voilà, ça c'est vraiment le message que j'avais à donner, et vous êtes l'expert de votre enfant. Voilà, ce ne sont pas les gens que vous voyez une heure dans la semaine qui connaissent votre enfant, c'est vous. Donc faites-vous confiance. Si vous voyez que quelque chose ne va pas, eh ben, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Et donc faites-vous confiance. Hein. Ayez toujours ça en tête, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent me voir. Et enfin, il y a aussi des enfants qui ont des besoins vraiment spécifiques et que ce cadre-là éducatif ne serait pas forcément approprié. Je pense que c'est important de le souligner, hein. Des enfants qui ont un trouble du spectre autistique, des enfants qui ont un TDAH, c'est des choses qui ne vont pas forcément leur correspondre parce qu'ils ont des besoins qui sont autres, parce qu'ils ont une neuroatypie et qu'on a besoin de la prendre en considération. Donc, allez voir des spécialistes dans ces domaines qui vont vous donner des clés et vous accompagner. Voilà, l'éducation bienveillante, oui, bien sûr, mais l'éducation bienveillante, c'est surtout prendre en considération les besoins de l'enfant. Donc, si mon enfant est atypique, j'ai besoin de prendre en compte son atypie. Voilà, il n'y a pas de recette qui marche pour tout le monde.
D'accord. Merci Séléna d'être venue parler de l'éducation bienveillante. Je te souhaite une belle journée et merci encore pour ta présence et tous tes conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui.
Merci psychologue Ponette et merci Charlotte.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.